franceinter.fr.
Et donc le don d'organes à la une de la science aujourd'hui, puisque depuis le 1er janvier, les Français peuvent déclarer sur un registre national leur refus d'être prélevés peu après leur décès. Une mesure, vous allez le comprendre, qui vise à mieux répondre aux besoins de greffe alors que les personnes sur liste d'attente augmentent chaque année.
Votre fils Simon a eu un grave accident de la route.
Mais je comprends rien.
Quand vous le voyez, tout vous semble normal. C'est uniquement grâce aux machines que vous avez vues dans sa chambre. Mais si on arrête ces machines, son cœur s'arrêtera aussi. C'est délicat, mais il faut que j'aborde quelque chose avec vous. Cette situation nous permet d'envisager un don d'organes.
Extrait du film « Réparer les vivants ». France Roussin, c'est un peu vous finalement, cette personne qui, au moment du décès, aborde avec la famille ou les proches la question délicate du don d'organes. C'est exactement ce que vous pouvez avoir comme propos avec eux ?
C'est exactement ça en fait.
Oui.
Exactement le rôle de Thomas dans ce film « Réparer les vivants ».
Et vous êtes coordinatrice de prélèvement d'organes et de tissus au sein du groupe hospitalier Saint-Louis-Lariboisière. Agnès, la première question pour France Roussin.
Qu'est-ce qui change concrètement avec cette nouvelle loi ?
Alors clairement, cette nouvelle loi vient renforcer le principe de consentement présumé qui existe en France finalement depuis 1976. Et clairement, au terme de la loi en France, c'est qui ne dit mot consent, donc on est tous considérés comme des donneurs potentiels.
C'est ça, ouais.
Si on ne s'y est pas opposé clairement de son vivant. Et donc ce registre national des refus permet à tout citoyen, s'il est opposé au don d'organes, de s'inscrire sur ce registre. Mmh. Ce registre, il faut savoir qu'il existe depuis 1998, mais là, la loi... Et l'amendement de août 2016 vient renforcer ce principe de consentement et informe vraiment le public sur le fait qu'il faut s'inscrire quand on est opposé au don d'organes.
Et donc si le défunt n'a pas déclaré son refus d'être prélevé, il devient donc un donneur potentiel, donc il l'était déjà depuis 1976 en principe. Mais là, ce que ça signifie, c'est que la famille ne pourra plus s'opposer à un prélèvement ?
Alors, l'entretien avec la famille aura lieu de la même façon qu'en 2017, qu'en 2016 et que dans toutes les années qui viennent de passer. Ce qu'il est important, c'est que la population se positionne et clairement, ce qu'on recherche auprès des proches, c'est l'opposition du défunt. On ne cherche pas à savoir si la famille est pour ou contre. Ce qu'on cherche essentiellement à recueillir auprès des proches de la personne décédée, c'est l'opposition du défunt au don d'organes. Donc vraiment, notre discours est vraiment axé et tourne autour du refus du patient.
Oui, ce qui paraît d'ailleurs assez étonnant, parce qu'on pourrait s'intéresser plutôt au consentement, hein, faire que les choses soient plus simples. Et là, la loi, justement, précise les choses autour du refus.
Oui, parce que il y a un registre en France, c'est un refus du non, registre du refus. Et en France, il n'y a pas de registre du oui. Alors, il y a une carte de donneur qui est un bon élément pour engager une discussion au cours de ces discussions qui sont qu'on entame après l'annonce du décès.
Mmh. C'est un document que beaucoup d'auditeurs possèdent d'ailleurs. Hein.
La carte de donneur.
Cette carte de donneur.
On la prend, on la remplit, puis on la met dans son portefeuille.
Elle fait foi réellement.
Alors elle n'a pas de valeur légale, mais pour nous c'est vraiment un bon élément pour entamer la discussion avec les proches.
Ah oui, alors ça c'est étonnant parce qu'effectivement en préparant le dossier avec Agnès, on s'est aperçu qu'effectivement elle n'avait pas de valeur légale.
Exactement.
Cette carte de donneur. Ça c'est étonnant quand même.
En fait c'est un peu le principe de qui ne dit mot consent. Si on ne s'y est pas opposé, c'est qu'on est d'accord, quoi. Mais c'est vrai que cette carte de donneur, pour nous, est vraiment très importante quand les rares fois, on la trouve, donc les familles nous la donnent, en fait.
Mais du coup, on ne comprend pas bien qu'est-ce que cette loi va changer. Est-ce que vraiment ça va permettre d'augmenter le nombre de greffes ?
Je pense que c'est important, surtout très important d'en parler, de communiquer autour de ce sujet et que les gens, clairement, puissent s'exprimer. Et s'ils ne sont pas d'accord, qu'ils aillent jusqu'au bout de cette démarche et qu'ils s'inscrivent sur ce registre, quoi. Alors, ce qui va être un peu différent aussi, c'est que à partir d'hier, finalement, à partir du 1er janvier, les proches vont devoir écrire et signer sur un papier les circonstances dans lesquelles la personne se serait opposée, mais ne se serait pas inscrite sur ce fameux registre.
Donc, il faut le justifier, en fait.
Il faut le justifier,
c'est
exactement.
C'est un peu plus contraignant.
Voilà.
Ouais. Quels sont les arguments qu'on vous oppose, que vous entendez de la part de ses proches d'un patient décédé qui refuse le prélèvement d'organes ? Pourquoi c'est si...
Alors d'abord, je pense que c'est très difficile de la part d'une famille de prendre position pour un des proches. Si on ne sait pas, dans le doute, on préfère toujours un peu s'abstenir, quoi. Ça, c'est une des premières choses. Et puis, il y a aussi le problème de mutilation et d'atteinte à l'intégrité du corps. Sachant que le don d'organes, c'est une intervention chirurgicale qui est faite dans un bloc opératoire avec des chirurgiens extrêmement compétents. Donc, c'est quelqu'un qui va être opéré, mais aucunement mutilé.
Bien sûr. Vous avez beaucoup de refus, d'ailleurs, sur vos demandes ou pas ?
Il y a entre 30-33% sur l'ensemble du territoire, et sur Paris et région parisienne, on est plus autour des 40 ou 45% de refus.
Comment on l'explique ?
On l'explique pour justement ce problème de quand on ne s'est pas positionné, les familles préfèrent refuser parce qu'ils connaissent pas bien la position du défunt. Mmh. Et puis comme je vous le disais, ce problème d'intégrité du corps, c'est toujours un peu compliqué de se positionner quand la personne n'en a pas parlé, quoi.
Et tout ça tandis que le nombre de personnes sur liste d'attente d'une greffe, quant à lui, a tendance à augmenter chaque année, c'est ça ?
Le nombre de personnes inscrites sur les listes d'attente ne cesse d'augmenter, puisqu'on est, je crois, à plus de 20 000 personnes qui attendent un organe aujourd'hui en France. Et en gros, il y a 500 personnes qui meurent chaque année faute de greffon.
Oui. Qu'est-ce que vous leur dites, vous, à ces personnes qui craignent de voir leurs proches peut-être charcutés ou bien qui invoquent aussi l'argument religieux ? C'est quelque chose que vous entendez aussi, je crois.
Charcutés, Agnès prononce ce mot parce que je crois qu'il revient très souvent dans ce que vous entendez de la part des familles.
C'est un terme que les familles ou les proches ont tendance à reprendre assez fréquemment, alors qu'il y a vraiment énormément de respect autour de cette intervention. C'est quelqu'un qui va être opéré, comme on est opéré quand on est vivant. Ça fera une cicatrice sur le ventre, sur l'abdomen, et rien de plus. Une fois que l'intervention chirurgicale est terminée, les proches peuvent se recueillir et gérer les obsèques comme ils le souhaitent, en fait. Ça ne change absolument rien.
Vous, votre travail, c'est vraiment d'essayer de convaincre les familles quand il n'y a pas de refus.
C'est pas d'essayer de convaincre, c'est d'essayer de se rapprocher, d'être la plus proche des volontés du défunt, et surtout de s'assurer que le défunt n'y était pas opposé. S'il n'y est pas opposé, on peut se dire qu'il aurait été consentant à donner ses organes pour sauver des personnes qui sont sur ces listes d'attente.
Et à ce moment-là, c'est à vous de convaincre la famille qui peut
c'est
être opposée.
C'est nous d'engendrer un discours qui soit cohérent, avec le plus grand respect, bien entendu, puisqu'on est quand même face à une famille qui est endeuillée. Donc je pense que c'est quand même ça qu'il ne faut à aucun moment perdre de vue, en fait.
On sait que, par exemple, en Allemagne ou aux États-Unis, la position d'un individu peut figurer sur le permis de conduire. Est-ce que c'est quelque chose que vous auriez aimé voir figurer dans cette nouvelle loi ? Qu'est-ce que vous auriez pu attendre, vous, d'ailleurs, d'une loi pour favoriser ?
Alors, sur le permis de conduire, c'est vrai que c'est très confortable, parce que du coup, ça permet personne de se positionner, et que au moment justement on va annoncer ce décès qui est un décès souvent inattendu ou un peu tragique.
Vous y avez déjà été confronté, ça, des patients justement allemands ou américains ?
Oui, alors il y a parfois des touristes qui hélas passent en France et puis qui décèdent pour une raison X ou Y, et donc les discours avec ces familles touristes en France, c'est vrai que ça a été assez simple puisqu'ils nous ont sorti le permis de conduire, c'était marqué sur le permis de conduire, donc finalement ça a été très très simple, la discussion a été vraiment très très simple. Alors maintenant on pourrait se dire ça pourrait être inscrit aussi sur une carte vitale, sur une pièce d'identité, sur un permis de conduire, oui je pense que ce serait un plus.
Il y a une culture du don, on peut le dire comme ça, selon les pays, justement, une approche qui est très différente.
Il y a une culture du don, je pense que c'est important d'en parler, c'est important de banaliser cette intervention, puisque au final, ça se fait avec le plus grand respect et que, quelque part, c'est la vie qui continue, quoi.
Qu'est-ce que vous répondez lorsqu'on invoque l'argument religieux aussi ?
Clairement, il n'y a aucune religion qui interdit le don d'organes. Je pense que la vie prime sur tout et que le principal, c'est de sauver des vies et que la vie continue.
Donc depuis le 1er janvier, tous les Français sont considérés comme donneurs d'organes présumés, sauf déclaration contraire. Hein, voilà. Merci beaucoup France Roussin, c'est important de faire un éclairage sur cet aspect évidemment essentiel et qui peut là aussi sauver des vies, on l'a bien compris, et qui permettra peut-être aussi d'améliorer le dialogue, en tout cas parfois lorsqu'il est difficile.
C'est très important d'en parler.
Merci à vous d'être venu à la Une de la Science, et Agnès, à demain.
À demain.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, ramollir les tumeurs pour favoriser le traitement du cancer. C'est ce qu'a expérimenté sur des souris une équipe du CNRS, de l'INSERM, de Paris 7 et Paris 8. Habituellement, lorsqu'une tumeur se rigidifie par l'action des cellules cancéreuses, il y a plus de chances de voir des métastases se développer et les traitements se diffusent moins bien. Et afin de ramollir justement la tumeur sur ces patients, eh bien des chercheurs ont procédé par nano-hyperthermie, c'était sur la souris. Ils ont chauffé les cellules cancéreuses en introduisant dans la tumeur des nanotubes de carbone. Ce traitement, qui pourrait être associé à une chimiothérapie, fait l'objet d'une publication dans la revue Theranostic. Le télescope spatial Hubble observe un méga-maser, phénomène analogue au laser. Maser qui émet de la lumière, un maser émet lui des micro-ondes, sauf qu'ici Hubble a observé un maser extrêmement puissant, plus de 100 millions de fois plus brillant que ceux de la Voie lactée. Ce méga maser est composé de deux noyaux de galaxies tournant l'un autour de l'autre au sein d'un gigantesque tourbillon de gaz. Heureusement, ce phénomène est très éloigné, quelques 370 millions d'années-lumière de la Terre, car le méga maser est au moins 1000 fois plus lumineux que le Soleil. Et puis les dinosaures couvaient leurs œufs plus longtemps qu'on ne le pensait. Longtemps, les paléontologues ont cru que cette période de couvaison était similaire à celle des oiseaux, de l'ordre de quelques dizaines de jours. Mais une étude publiée dans la revue PNAS révèle que la durée d'incubation de certains dinosaures pouvait durer jusqu'à 6 mois, un temps long qui a pu peser d'ailleurs dans leur disparition. Une longue couvaison impliquant une reproduction lente, soit un gros désavantage en termes de survie lorsque, par exemple, un astéroïde frappe la planète comme il y a 65 millions d'années.